conférenciers ne retrouvent pas leur petit. Parce qu'à force de trop tailler de branches, ça ne ressemble plus à l'arbre originel. Commencer à dire ce qu'on a fait cette année, c'est se souvenir que le père Barthélemy a commencé cette année en rendant hommage à M. Robert Mauss. Robert Mauss, c'était non seulement un ami, non seulement quelqu'un qui participait à nos réunions, c'est quelqu'un qui était fondateur de l'amitié judéo-chrétienne à Annecy, et c'était notre lien avec la communauté juive religieuse d'Annecy. Donc c'était important de rappeler quelle personne, quel ami et quelle personnalité nous avons perdu l'année dernière. Ensuite, c'est le père Barthélemy qui a commencé cette année avec le sujet « Dieu s'engage avec l'homme, libération, alliance, création ». Il insistait pour dire que ces trois aspects sont indissociables. La Bible est le livre de la vie sous tous ses aspects. Pas la vie telle qu'elle devrait être, mais ce qu'elle est, respect profond de l'homme. L'alliance ne peut se faire qu'avec des hommes qui accèdent à la liberté. Il y a acceptation, et il nous rappelait le verset « Nous ferons et nous écouterons ». Le Shabbat, c'est l'homme qui vit avec Dieu, la création. Il travaille 6 jours et arrive avec Dieu le 7e jour. L'homme est appelé à s'achever, mais en achevant la création, et ce n'est possible que dans la liberté. Le pasteur Nicole Fabre nous parlait des regards différents sur la personne à travers la Bible. Elle soulignait qu'il y avait bien une évolution, on passait de l'identité clanique ou nationale à l'identité humaine et universelle. De la même manière, on remarquera le passage du collectif à l'individu. L'être humain, venant de la poussière, est appelé à porter la vie. Image de Dieu, sa fragilité prend sens. C'est un premier changement de regard. L'homme peut s'ouvrir à une fraternité sans compétition. Elle nous rappelait la parabole du semeur, les grains qui tombent à différents endroits, cette parabole commence par écouter. Il faut écouter la différence, parce qu'au début, c'est un singulier. Le grain tombe sur les cailloux, le grain tombe dans la broussaille. Il n'y a que dans la bonne terre qu'il y avait un pluriel, les graines. Il faut être plusieurs pour aller vers Dieu. On passe du pluriel au singulier et du singulier au pluriel. Le changement se fait avec la notion de résurrection. Avant, la survie d'un individu ou d'un peuple, la transmission se faisait par la descendance, les enfants. Il existe un déséquilibre existentiel entre Dieu et l'homme. On peut reconnaître ce déséquilibre sans en être écrasé. Accepter que l'on peut dépendre d'un autre, remettre tout cela dans les mains de celui qui nous fait confiance, la crainte est changée. C'est un frémissement, c'est la limite que je ne peux franchir. Remettre l'homme dans les mains de Dieu. La crainte éclairée nous ouvre à la confiance. C'est le cœur de l'alliance où l'homme s'engage aux côtés de Dieu et Dieu aux côtés de l'homme. L'homme est appelé à sortir de l'idolâtrie, nous disait-elle. L'homme voudrait se construire lui-même, il veut s'ériger en modèle, mais Dieu vient dans l'histoire des hommes, il abandonne son autosuffisance, et en Jésus, pour les chrétiens, Dieu s'est lié définitivement à l'homme. Dieu s'engage, mais seul dans sa totalité. Il sait que l'homme ne pourra tenir ses engagements, mais lui, Dieu, le fera. La personne biblique se construit à partir d'une parole qui lui est extérieure, mais qui va être intériorisée. Ce sont les paroles écrites sur le cœur. Ensuite, c'est le père Philippe Abadie qui nous parlait d'un Dieu qui nous libère de la notion, vous savez qu'on entend souvent, du Dieu tout-puissant. Et il se servait pour ça de la contestation de Job et de l'image de la croix. Il nous rappelait que, pour beaucoup de gens, c'est quasiment synonyme de parler de Dieu et de parler de Tout-Puissant. Et cela vient du fait que l'expression « le Seigneur Tout-Puissant » veut rendre dans les traductions deux dénominations divines hébraïques, El Shaddai et le tétragramme Adonai Sebaot. Or, ni l'hébreu El Shaddai, ni la dénomination le tétragramme avec Sebaoth ne suggère l'idée d'une toute-puissance. C'est la version grecque des Septante qui traduit par Pantocrator les dénominations El Shaddai et le tétragramme, donnait simplement un titre impérial. À l'inverse, ce titre ne sera jamais repris par Jésus qui lui préfère celui de Kurios, c'est-à-dire Seigneur. Et cela correspond à l'usage hébraïque de substituer au tétragramme la dénomination Adonai, et c'est Saint Jérôme au Ve siècle qui traduit Pantocrator par Omnipotence, tout-puissant. Alors il nous disait que la réponse divine se laisse aisément subdiviser en deux unités. D'abord, la révélation du nom. Et Dieu dit à Moïse, « Je suis, serai, qui je serai, ayez à chair, ayez. » Premièrement, il est possible d'y voir un refus de livrer son nom. Par là, Dieu refuse d'être assimilé à l'idole. Secondairement, il est possible d'y voir aussi l'affirmation de l'essence divine, c'est-à-dire l'existant, avec un E majuscule, par rapport à une idole, qui ne l'est pas. Un troisième sens n'est pas exclu, c'est celui d'une révélation par l'agir. C'est bien dans l'histoire du salut que Dieu sera connu par Israël, dans une histoire marquée par l'Alliance. Et le père Abadie, mais je peux m'y associer, disait en chrétien, j'ose même penser que la nomination du Sinaï ouvre sur cette autre célébration du nom dont parle Philippien, un nom donné au-dessus de tout nom, dans l'humilité de l'obéissance et l'abaissement de la croix, hors de toute force et de toute appropriation. Aussi, donner un autre nom à Dieu que celui reçu au Sinaï, c'est faire courir le risque de se fabriquer une idole. Ensuite, notre ami Gérard Manant nous a parlé d'un sujet difficile, la Bible et les droits de l'homme. Le problème de la justice, il l'aborde à partir de l'exemple de Simon ben Chata et de la manière dont la Mishnah, avec Rabbi Eliezer, Rashi, résonne. Les sages justifient que c'est le verset biblique qui devient le fondement d'une doctrine d'application des peines. Les rabbins du Talmud adoptent une attitude fondationaliste. C'est un type de logique qui entend baser le droit sur une base rationnelle. Mais cette position ne va pas sans difficulté, et en particulier Rav Nachman l'avait souligné, à tout fonder sur un verset, on ne fonde plus rien. Il est alors proposé, nous dit-il, une herméneutique talmudique. Pour les rabbins, en effet, une éthique n'est jamais dissociable d'une herméneutique. C'est l'acte de lecture qui inscrit ou pas la Bible dans le domaine de l'éthique. Une lecture littérale peut servir de garde-fou éthique. C'est la lecture fondamentaliste qu'il faut craindre. Et il se servait, pour nous donner un exemple, de œil pour œil, dent pour dent. Vous savez que c'est souvent censé être la critique d'une lecture littérale. Mais David Bannon lit « tu donneras ». Donc, ne pas prendre un œil pour un œil, mais donner un équivalent. Le Gaon de Vilna, encore plus littéral, dit « Aïn », donc « œil » en hébreu, trois lettres dont l'anagramme donne « argent ». Il est des cas où la tradition rabbinique n'est ni fondationaliste, ni anti, mais statue que la Torah doit être prise comme un texte de fiction. Je sais que ça fait toujours choquer de dire que la Bible peut être considérée, dans certains passages, comme de la fiction. Ah, je t'épargnerai rien. Il y a des versets bibliques, en effet, qui ne renvoient à rien, parce que la Bible est un texte, comme tous les textes, fictionnel, elle ne traduit pas la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, elle n'est pas à appliquer telle qu'elle. Elle est à étudier, il ajoutait, et on en est récompensé. Le peuple juif est un peuple texto-centré, mais les versets sont plus prétexte que texte, origine que fondement, et référence que fondation. Pourquoi cherche-t-on à fonder les droits de l'homme sur une doctrine, une théorie ou un système? Ne court-on pas le risque, en effet, de les affaiblir? Je nous disais que ce qui est important pour le Talmud, c'est l'efficacité de l'action en faveur, non pas tant du système, des droits, mais plutôt en faveur des personnes dont les droits sont bafoués. Au contraire, il pensait que la défense des droits de l'homme se suffit à elle-même. Ensuite, nous avons eu le pasteur Florence Taubman, qui disait que c'était un sujet difficile qu'on lui avait confié, l'homme appelé à se réaliser en parachevant la création. Elle partait du psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme ?» Elle disait, il y a un vis-à-vis de l'homme et de celui à qui il parle, bien qu'invisible. Elle citait saint Augustin, très cher aux protestants, qui disait « L'incapacité de l'homme à faire le bien par lui-même, pour qui la grâce de Dieu est indispensable. » Elle citait aussi Thomas d'Aquin, plus catholique cette fois-ci, qui pense que l'homme a les ressources en lui pour œuvrer à son salut. La vocation de l'homme est de vivre. Cette vie n'est pas réductible à la vie animale, elle est assujettie, disait-elle, à une exigence de sens, à se réaliser, à réaliser un double infini. D'abord parce qu'on est inachevé, dans le sens de pas encore achevé, mais aussi infini en voie vers l'accomplissement. La seule question théologique qui importe, Dieu a-t-il cessé la création le septième jour? Ou continue-t-il encore actuellement? S'agit-il d'une création continue? Le psaume 104 propose le principe d'une création continue et les théologiens américains parlent d'un processus continu. Dieu est touché par sa création. C'est la souffrance de l'homme qui pose la question du pourquoi. L'humain cherche du sens auprès de celui qu'il appelle Dieu. Parachever, c'est dire la question de la responsabilité, de la raison, du temps. Le monothéisme place l'homme au centre de la création, mais alors, comment vivre cette responsabilité? Le catéchisme catholique affirme le principe de la loi naturelle placée au cœur de l'homme. L'homme a en lui-même le pouvoir de parachever la création. Les réformateurs, jamais d'accord, opposent à la capacité de la raison humaine sa fragilité. Il peut l'utiliser d'une manière pervertie. En effet, l'homme a une faille originelle, il a donc besoin de la grâce de Dieu. Les desseins de Dieu sont insondables, l'homme doit accepter de ne pas tout comprendre. Ensuite, c'est le rabbin François Garay. Pour que l'homme soit, c'est-à-dire le retrait de Dieu, fondement de l'homme. Donc on a abordé le terme de Tzimtzum, vous vous souvenez, ce retrait. Ce terme ne se trouve nulle part dans les textes hébraïques et dans les premiers textes rabbiniques. On trouve ce mot dans les textes tardifs de la littérature rabbinique. La nature divine se compresse. Tzamtzem, dans le sein des saints du temple. Puis arrive l'émergence de l'idée avec Isaac Luria. Comment Dieu, intemporel et sans limite, sans substance, alors que l'univers où nous vivons est limité justement en espace, en temps et en matière. Luria questionne, comment Dieu sans matière peut-il donc créer la matière? Ce qui est sans matière et sans limite, s'est rétracté pour laisser un vide à l'intérieur de son bien, et c'est ainsi qu'a pu se créer du mal dont il s'est éloigné. Une autre voie, nous disait-il, c'est de passer par l'analyse de la Bible et donc de Bereshit. C'est donc la première lettre de la Bible et donc la deuxième lettre de l'alphabet, car nous vivons dans le monde de la différenciation, de la distanciation. Dieu, hors du temps, crée le temporel, temporalité qui permet de marquer des espaces. La création ex nihilo, c'est la concentration divine qui a créé un vide en restant au-dessus pour en assurer le développement. La parole est création en elle-même, et ce n'est pas un hasard que le monde soit créé par la parole. Pour qu'une parole soit énoncée et écoutée, il faut que le locuteur et l'écoutant soient séparés. La séparation incite à la parole pour l'échange. Qu'ont vu de Dieu nos ancêtres, disait-il, son absence. C'est pour cela qu'ils cherchaient sa présence. La Torah formule la présence de son absence. Nous approchons Dieu à travers son absence de lui qui est présence. Accepter sa parole, c'est accepter notre tzimtzoum. Si nous n'acceptons pas notre rétraction, nous n'accédons pas à l'écoute et à une possible compréhension de la parole. Voilà un résumé que j'ai essayé de faire le plus bref possible d'une année très riche. J'ai avec beaucoup de regret pas pris en compte les questions que vous aviez posées, et ça a été un chagrin pour moi parce que c'est en les relisant et en lisant les réponses des conférenciers que j'ai vu le chemin que vous aviez parcouru, que nous avions tous parcouru, entre les anciennes amitiés judéo-chrétiennes où les gens n'osaient pas poser de questions, peut-être par manque de connaissances, par peur du ridicule, et maintenant je pense qu'il y a suffisamment, il y a plus de connaissances, et puis il y a plus de confiance entre nous, et les gens n'hésitent pas en disant, si c'est pas, on s'ébrouillera. Donc je vous renvoie, si vous voulez écouter les conférences dans leur entier, au site de l'Église réformée. C'est pas pour faire de la réclame pour l'Église réformée, je trouve d'ailleurs que c'est bien équilibré, on est accueilli ici à la maison diocésaine catholique, et c'est le site de l'Église réformée qui héberge nos conférences, donc c'est très bien, et c'est très simple d'y accéder, et j'en profite pour remercier Norbert qui assure ce service, et donc, voilà, je vous souhaite une bonne année, une bonne... un bon été avant d'attaquer l'année prochaine. Merci beaucoup.
Eh bien, nous partageons tout. On partage notre vie et puis on partage... Jean-Marc a fait de bonnes paroles que j'aurais bien faites, effectivement, mais il a déjà dit beaucoup de choses. Et
merci Jean-Marc. Mais c'est vrai que... la convivialité, le fait d'être à l'aise, même s'il manque, il manque des personnes.